carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts vous propose toute une série d'émissions consacrées à l'œuvre ultime dans l'art, en compagnie de Jacques Rubinet, correspondant dans la section membre libre de l'Académie des Beaux-Arts et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie nationale de médecine. Nous avons eu l'occasion de nous intéresser à Picasso, Chardin, Matisse, et pour cette nouvelle émission, Jacques Rubinet, vous avez choisi Édouard Manet, peintre impressionniste du XIXe siècle, dont ses tableaux les plus connus sont certainement l'Olympia, cette femme nue étendue sur son lit qui regarde le spectateur, ou encore le Déjeuner sur l'herbe avec cette même femme nue. Je crois que vous allez nous parler de ces deux tableaux, Jacques Rubinet, même s'ils ne font pas figure d'œuvre ultime, car dans ces deux tableaux, comme dans de nombreux autres, on retrouve quelque chose de particulier à Manet, l'importance des fleurs et de leur symbolique. Jacques Rubinet.
Oui, je vous remercie d'avoir souligné l'importance des fleurs et souligné aussi que nous avons la chance d'avoir pour le moment à Paris une exposition Manet, donc il faut en profiter pour le regarder de nouveau et le regarder de très près. Alors, les fleurs ont été l'objet de nombreuses analyses. Il y a même une exposition particulière à Orsay qui a eu lieu, je crois, en 2001 et qui a aussi été à Baltimore, dont le titre était « Manet et les natures mortes ». Mais pour nous, aujourd'hui, je crois que les fleurs peuvent nous servir, peuvent nous conduire à travers l'exposition. Parce qu'on trouve toute son œuvre et très vite apparaît leur vraie signification. Toute son œuvre, c'est d'abord en 62, un tableau qui s'intitule « Lola de Valence » avec une femme dont la jupe est un peu gonflée comme une crinoline et dont Baudelaire a parlé d'une manière un peu singulière, puis il en fait ce qu'il appelle un bijou rose et noir. Il y a du noir, le rose pour moi devient du rouge, mais enfin peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que dès cette période, Manet peint non pas des fleurs, mais peint plutôt des fleurs, mais non pas des fleurs réelles, des fleurs sur la jupe de cette femme. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que très vite, la fleur, une fleur, la pivoine, en 64, la même année que celle du torero mort, dont on connaît la discrétion, puisque la mort n'est indiquée que par un tout petit saignement de sang qui sort de la tête. C'est essentiellement un personnage couché. Il y a juste une petite tache de sang. Eh bien, la même année que le torero mort, il attaque la série, et en particulier une pivoine. Alors, il y a un poète, un écrivain, mais un poète, qui s'appelle André Frégnaud, qui a été séduit par ce tableau des pivoines et qui en fait, non pas le récit de la mort, écrit-il, pour employer un terme médical, plus précisément, dans sa cruauté, la courbe d'agonie. Et de ce tableau, il montre toutes les étapes de la mort d'une pivoine. Et Françoise Cachin, dont on ne peut pas ne pas parler, parce que ça a vraiment été celle qui a remis en valeur Manet, l'exposition d'aujourd'hui reprend l'exposition qu'elle avait organisée il y a 30 ans, eh bien, elle a suivi ce qu'avait dit le poète, et elle montre que, je lis, du bouton droit aux fleurs évanouies du haut du bouquet et à gauche, pour terminer le volute du centre, où les pivoines sont sur le point de s'effeuiller, la dernière ayant déjà perdu une partie de ses pétales. Vous voyez, il y a donc toute la différence entre la fleur dans le vase jusqu'à la fleur qui tombe et qui vient s'effondrer, si je peux dire, sur la table.
Donc c'est la peinture, le vase aux pivoines, hein, parce qu'il y a plusieurs séries, je crois.
Le vase aux pivoines, et en 65, il en fait d'autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces fleurs paraissent comme des vanités. C'est pas du tout une fleur joyeuse. Ouais, 65, il était en pleine expansion. C'était un homme qui ne pensait qu'aux femmes. Eh bien, là, les fleurs représentent déjà la mort. C'est la raison pour laquelle je voulais qu'on commence par là. Et Françoise Cachin l'a beaucoup dit. Elle a beaucoup souligné une part d'ombre dans la peinture de Manet. Le sens du drame, les images de mort apparaissent bien avant que la maladie vienne l'assombrir. Vous savez, c'est important qu'il va mourir très jeune.
Et à 51
que
ans.
La mort réelle, la mort physique, la grande maladie, va apparaître très tôt. Mais Manet, bien sûr, avec les fleurs, dit beaucoup d'autres choses et il a beaucoup vanté ses natures mortes. Il a écrit qu'il pouvait tout dire avec des fruits et des fleurs et qu'il voulait être comme le Saint François de la nature morte. C'est un peu exagéré. En fait, il va surtout décrire des femmes. Alors, deux grands tableaux, le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia. Le déjeuner sur l'herbe, il n'y a pas de fleurs. Bon, donc on en parle peu, mais c'est un très beau tableau, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est quelqu'un comme Michel Déon. Michel Déon est devenu amoureux de Victorine Meurin, qui est la femme nue qu'on va voir dans toute l'œuvre, dans toute une partie de l'œuvre de Manet. Et alors, il est complètement amoureux d'elle. Le corps, après une rapide et gaie déshabillage, le corps irradie. On ne s'attarde plus sur son visage que sur sa violente nudité, tant ce visage si parlant s'amuse de notre surprise. Magique décor de la fable, au centre d'un sous-bois à la sombre splendeur, douceur intime de la clairière, garde montée par les grands arbres touffus, nonchalance des hommes face à les libertés de la femme. Donc, plus de 100 ans après, une lettre d'amoureux de Michel Déon pour Victorine Meurin. Autre tableau capital de la même année, 65, l'Olympia. Alors l'Olympia, enfin, c'est aussi la beauté de la femme, mais c'est la femme vénale. C'est plus l'amour, c'est vraiment la femme qu'on achète. Avec un véritable... La femme qu'on... qui se vend. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il achète. Mais enfin, elle se vend. Et immense scandale. Immense scandale. Avec, là encore, des défenseurs qui disent, cette fille de nos jours, une fille de 16 ans, que vous rencontrez sur les trottoirs et que l'artiste a jeté sur la toile dans sa nudité jeune et déjà fanée, parleur charmante qu'Édouard Manet a tranquillement copiée telle qu'elle l'était, tout le monde a crié, on a trouvé ce corps nu indécent, et cela devait être, puisque c'est là de la chair écrit Zola. Alors vraiment scandale. Valéry hurle, Paul Valéry, le poète. Olympia choque, dégage une horreur sacrée, s'impose et triomphe, elle est scandale, idole, puissance et présence publique d'une misérable arcane de la société. Sa tête est vide, un fil de velours noir l'isole de l'essentiel de son corps. Et il y aura des textes sur ce fil, des textes de Michel Léris, qui va écrire enfin, le fil qui entoure le lacet de l'Olympia. Sa tête est vide, un fil de velours noir l'isole de l'essentiel de son corps, vestale bestiale, vouée au nu absolu. Elle donne à rêver à tout ce qui se cache et se conserve de la barbarie primitive et d'anémie rituelle. Vous voyez un tableau très dur, détesté par les gens qui l'ont vu.
Alors, enfin, dans ce tableau,
la population.
Dans ce tableau, autant dans le déjeuner sur l'herbe, vous le disiez, il n'y a pas de fleurs, autant dans l'Olympia, il y a une fleur d'hibiscus et puis ce bouquet qu'apporte
un énorme bouquet
la servante.
Dont le papier n'a pas encore été enlevé, comme si la servante noire qui l'apporte venait vraiment de le recevoir. Et on sait très bien que la personne qui lui donnait était un singulier donateur. Ouais. Et en dehors de ce côté, disons, public, bon, c'est une manière de payer déjà Olympia. En plus, c'est le côté luxure. Mais en plus, on a bien montré qu'en réalité, le tableau joue un rôle essentiel dans la peinture. Il y a un trou entre le bras gauche de l'Olympia et la servante, qui est en blanc. Eh bien, ce trou est comblé par ce bouquet qui vient, et je crois que Malraux en parle très bien, le tableau dont le fond avait été un trou devient une surface, et cette surface devient non seulement sa propre fin, mais sa seule fin. Pour Malraux, en réalité, Manet fait de la peinture. Et il se fiche un peu du sujet. Il prend le sujet. Mais pour lui, ça va devenir un jeu de couleurs. Ça va devenir la peinture pure. Ce que Manet entreprend dans certaines toiles, c'est une picturalisation du monde. S'il lui était déjà arrivé que la touche prit cette autonomie, ça avait toujours été au service d'une passion dont la peinture n'était que le moyen. Cette fois-ci, c'est le contraire. Dans la peinture moderne, la fin dont l'acuité de la vision n'est qu'un moyen, c'est la transformation des choses en univers plastique. Autrement dit, pour Malraux, ce qui est intéressant, c'est que ce bouquet devienne des couleurs. Et qui joue un rôle capital, je vous l'ai dit, avec cette tache de blanc qui n'a pas la même couleur que le corps de l'Olympia, qui n'a pas tout à fait la même couleur que la robe de la servante noire, qui joue là un intermédiaire avec un blanc qui est très fort et qui vient percer la toile. Et Georges Bataille le dira autrement, passage de la peinture qui raconte à ce qu'elle est, nu, tache, couleur, mouvement. Tout en inventant une nouvelle écriture, Manet continue aussi à raconter. Alors ensuite, il y a des tableaux admirables. C'est la description en peinture de sa passion, Berthe Morisot. C'est pratiquement 10 ans après,
donc là, 72. C'est le bouquet comme symbole de la déclaration d'amour.
Absolument, Absolument. Alors, il n'a jamais caché ses sentiments. Où il y a un autre bouquet dont je ne vous ai pas parlé, qui est le bal masqué de l'opéra en 73, qui reprend exactement la même chose, qui joue un rôle, un double rôle. Ça montre, là encore, le côté vénal de tous ces admirateurs des danseuses qui viennent à l'opéra. Et en plus, c'est une grande tache de blanc qui fait suite à la couleur des danseuses, à la couleur des tutus des danseuses. Vous voyez, ambiguïté, la signification politique de l'époque, et puis en même temps, la vraie signification qu'est la peinture. Alors, on retrouve la même ambiguïté entre le sentiment amoureux et la peinture dans le tableau, dans les tableaux sur Berthe Morisot. À l'évidence, il était follement amoureux de Berthe Morisot.
Et c'était sa belle-sœur ?
Non, ça l'était. C'était une femme de la grande bourgeoisie, comme lui. Et à ce moment-là, les femmes fréquentaient pas beaucoup les ateliers, sauf les modèles. Bon, toujours accompagnée par sa mère, et qui en plus se voulait peintre. Alors, on n'a jamais su très exactement les sentiments qu'avait Berthe pour lui, mais les sentiments de Manet, alors ça, il les déclare absolument, et il fait sans doute un des plus beaux portraits qu'on puisse imaginer, c'est le portrait qu'on appelle Berthe Morisot. Alors, il y a deux choses, il y a un portrait admirable avec le triomphe du noir, et puis il y a d'autre part une petite lettre qui est déposée à côté du portrait et qui est devenue un tableau séparé, des violettes et un petit mot pour Berthe Morisot. Voyez le sentiment. Bon, et dans le tableau, dans le portrait de Berthe Morisot, c'est sans doute un des plus beaux portraits qu'on ait jamais fait. La peinture, c'est avant toute chose, écrit là encore Valérie, le noir absolu, le noir d'un chapeau de deuil, de bride de chapeau, mêlé à des cheveux châtains. La toute-puissance de ces noirs, la froideur simple du fond, les clartés pâles ou rosées de la chair, le désordre des mèches, des brides, du ruban qui encombre ce visage. Voyez que Valérie, là, il y va, hein. Et il ne l'insulte plus, il est en admiration, il est aussi amoureux d'elle, que d'ailleurs elle deviendra plus ou moins sa parente, parce que Valérie va épouser des gens de sa famille. Mais enfin, à ce moment-là, elle ne l'était pas, et c'est donc le mélange de la très grande peinture avec du noir, tout est noir dans ce portrait, et derrière un visage qui reste un visage difficile à comprendre. On ne sait pas très bien ce qu'elle regarde, un sentiment, mais qu'est-ce que c'est, ce visage aux grands yeux dont la fixité vague est d'une distraction profonde et offre en quelque sorte une présence d'absence. Voyez, les personnages de Manet sont très souvent absents. Ils regardent, mais on ne sait pas très bien quoi. Ils ne vous regardent pas, ils regardent quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est l'amour-passion. Alors ça finira mal, parce que finalement, elle épousera le frère du peintre. Elle deviendra Madame Manet, mais c'est le beau-frère... Et puis, ils se verront moins. Mais il a été follement amoureux. Et je vous décris le plus beau tableau, parce que c'est un tableau exceptionnel, son portrait en noir. Mais tableau compliqué, il a été précédé, suivi d'autres tableaux où Berthe se cache devant des éventails, ne veut plus apparaître, réapparaît. Au fond, un dialogue d'amoureux.
Et sur le balcon, la peinture alors, du balcon, alors, on la voit
le
aussi,
balcon,
très énigmatique.
Là, c'est encore autre chose. C'est, là encore... On ne sait pas ce qu'elle regarde. Les trois qui connaissaient très bien, on ne sait pas très bien ce qu'ils regardent. Et peut-être qu'ils regardent un nouvel espace. Ça, c'est l'interprétation de Schneider. On en parlera peut-être tout à l'heure.
On va arriver petit à petit à la fin de notre émission. Donc, on va quand même passer rapidement sur un autre...
Oui, alors, on passe sur l'amour-affection.
L'amour-affection.
C'est un tableau qui s'appelle Dans la serre, que je trouve un peu barbant. Mais enfin, tant pis. C'est un couple, alors, très bourgeois... où on parle même pas. C'est sans doute la fin d'une conversation. Et ça se passe dans l'atelier d'un peintre de ses amis qui s'appelait Rosen, avec non pas des fleurs, mais essentiellement des feuillages et quelques fleurs. C'est un lieu qui est transformé en serre. Et ce couple bourgeois, avec un jeu de main, se tait. Ils ont dû parler, ils ont fini de parler, mais ils se taisent. Alors maintenant... On arrive au grand tableau, c'est-à-dire le tableau de la fin, le bar aux Folies Bergère. Il n'était pas malheureusement à l'exposition d'Orsay, parce que les Anglais l'ont acheté, donc il est resté à Londres, alors qu'il était venu il y a 30 ans à l'exposition Manet. C'est un tableau tout à fait exceptionnel, parce que là encore, on sent... D'abord, Manet était très malade. Il avait une syphilis grave, il avait des douleurs, et il marchait mal. Il était gêné pour marcher, pour avancer. Bon... Donc, il a fait installer dans son atelier le bar, le faux bar. Il a mis dans ce bar, il a fait venir un très bon modèle, dont le regard est extraordinairement ambigu. Et puis surtout, il fait un tour de force de peinture, c'est-à-dire que le personnage vous regarde, mais comme on joue avec les obliques, il y a une glace derrière, on voit son dos, et dans cette glace, on voit non seulement le dos de la personne qui vous regarde, mais en même temps l'homme qui regarde cette femme et qui est en train de lui demander ce que vous pouvez imaginer. Il y a un double jeu, si vous voulez. Et puis, très important, il y a encore des fleurs. Il y a deux fleurs. Il y a une fleur qui est posée devant elle, dans un vase transparent. Et puis, il y a sur
le corsage.
Oui, en effet, sur son corsage, de nouveau des fleurs. Et là encore, Malraux écrit ce que Manet apporte, non de supérieur, mais d'irréductiblement différent. Vous voyez, c'est l'apparition d'une nouvelle une peinture, c'est la tache framboise du bar des Folies Bergères, c'est-à-dire la tache qu'elle porte au niveau de son chemisier. Voilà, ça c'est le dernier tableau, et puis ensuite il va continuer à peindre. Et là encore on retrouve les fleurs, car toutes ses amies, il avait beaucoup d'amis, vont lui apporter des fleurs. Et à la fin de sa vie, pratiquement, il ne va plus peindre que des fleurs, avec, si je peux dire, une double technique. Soit elles sont extraordinairement classiques, admirables, mais classiques, ils ne changent rien. Et en particulier, le vase reproduit très exactement le miroir de ce qui se passe dans l'eau. Et deuxième possibilité, de temps en temps, il s'énerve un peu sur ce tout petit bout d'eau qu'il y a au fond du vase, et il montre que c'est compliqué, que les formes sont enchevêtrées, qu'apparaissent d'autres couleurs, qu'il y a des bulles, on ne sait plus très bien ce que c'est. Et ça, c'est l'apparition de ce que Schneider trouve de très original dans la peinture de Manet, ce qu'il appelle la profondeur étrangère. C'est un mot qu'avait prononcé Baudelaire en voyant Manet. Il ne comprenait pas très bien ce qui se passait. C'est un mot qu'ils avaient décrit, en particulier à propos du fond du balcon. Le fond du balcon, il se passe des choses. Ces personnages sont là, voyez.
Vous parlez du bar aux Folies Bergères.
Non, je parle du balcon tout court, le tableau de balcon. Les personnages sont là et ils sont séparés de nous par cette espèce de barricade, si vous voulez. Mais pour lui, apparaît une nouvelle perspective, un nouvel espace qu'il appelle l'espace abyssal, c'est-à-dire un espace très confus, où on ne sait plus très bien ce qui se passe, comme si on était au fond de la mer. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces fleurs, il le retrouve sur certaines fleurs, en particulier un tableau qui s'appelle « Fleurs dans un vase de cristal » 1882, il meurt en 1883, et là encore, il retrouve cette obsession qui va peut-être entraîner l'art contemporain. C'est pour ça qu'il est inclassable. Tout le monde se demande, il n'est pas impressionniste, mais n'empêche qu'il entraînait les impressionnistes. Il ne retrouve pas la peinture du siècle, il n'est pas traditionnel, n'empêche que Olympia reprend un tableau ancien. L'architecture est celle d'un tableau ancien. Donc, il invente quelque chose d'autre, qui est d'abord le triomphe de la couleur, le triomphe du noir. À propos d'un portrait, il est amoureux d'une femme, eh bien il la transforme avec le noir, alors qu'il va être très obsédé par la couleur. Ça, c'est tout ça à propos des fleurs. Autrement dit, l'œuvre ultime, c'est bien évidemment le bar aux Folies Bergères, et c'est toute la série des fleurs. Et ça se termine après sa mort, puisque une de ses amies, chaque année d'anniversaire de la mort, va couvrir sa tombe. Vous voyez, non seulement ça a été vécu, ça a été un moment de la peinture, mais ça va être un souvenir prolongé. Voilà l'immense talent d'un peintre qui meurt, je crois, à 55 ans.
Et toutes ces fleurs sont donc à la fois vanité, déclaration d'amour,
oui,
amour-affection,
voilà. C'était absolument, luxure. Vous avez tout à fait raison, ce sont les mots clés à propos des fleurs. Vanité, parce qu'il y a la mort, il y a aussi la nouvelle peinture, il y a aussi la nouvelle perspective, et amour vénal, amour vrai. Tout ça s'est mêlé. Amour bourgeois. Bon, j'ai un peu saboté la serre parce que c'est un tableau qui m'ennuie. Mais enfin, bon, c'est quand même le triomphe d'un certain amour bourgeois. Et lui a une vie d'amour bourgeois, puisqu'il a épousé son professeur de piano et que son professeur de piano est mort après lui. Non, mais vous voyez, il avait des amis, mais le professeur de piano était toujours là. Et le fils, le personnage un peu singulier qui entoure très souvent le professeur de piano, c'était sûrement un de ses enfants qu'il avait eu avant qu'il l'ait épousé. Voilà le triomphe de cet immense peintre, très difficile à découvrir, qu'il faut voir et revoir. Heureusement, la France en a beaucoup.
Eh bien, merci Jacques Lubinet. J'invite nos auditeurs à nous retrouver pour une prochaine émission consacrée cette fois-ci à Louise Bourgeois. Merci à vous et à bientôt.
Merci, c'est moi qui vous remercie.